Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Call of Juarez Gunslinger qui a débarqué à télécharger de la part de Ubisoft Techland, enfin voilà. Donkey Kong Country Return, on en avait déjà parlé longuement au moment de sa sortie sur la Wii, mais nous allons en reparler au moment de son remake sur la 3DS, parce qu'il faut en reparler, parce que Donkey Kong Country Return est un très bon jeu, et voire c'est devenu un meilleur jeu sur la 3DS, enfin on aura tout le temps d'en parler. Et on va aussi s'attarder à du Rhythm Game coréen. Ouais, je sais. Non, ne partez pas. N'appuyez pas sur pause. Les rubriques habituelles, oui, il faut que je finisse avec Monsieur Fall, la minute culturelle, le com des com, etc., etc. Et je vais commencer donc en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, donc le spécialiste international du rhythm game coréen, Pipo Mantis de Canard PC. Bonjour, Pipo.
Bonjour, comme tu y vas, spécialiste international, allons-y.
Bon, le spécialiste local,
ça me va. Voilà.
Et Patrick Elliot de Hitphone.fr. Bonjour, Patrick.
Bonjour, Erwan.
Voilà, on va commencer. Ben, on aurait dû commencer par la news. Non, on va commencer. Oui, c'est un peu le bordel ce début d'émission. Je sais pas, je suis pas bien. En même temps, je suis en vacances officiellement, donc je reviens quand même spécialement pour ce Silence on Joue.
T'es en civil.
Et oui, je suis un peu en civil, donc tu vois, je suis pas non plus hyper aiguisé. Donc, on commence avec toi, Pipo, avec des nouvelles de Hérisson Bleu.
Tout à fait, le hérisson bleu qu'on aime tous, Sonic, bien évidemment, qui va revenir hein, sur Wii U, dans une exclue Wii U et 3DS, qui va s'appeler Sonic Lost World, qui a été annoncé pendant un Nintendo Direct il y a quelques semaines déjà. La différence, c'est que depuis quelques jours, on a un trailer, et que ce trailer est super sexy, que en fait, c'est Sonic Galaxy. C'est des niveaux de Sonic construits sur des espèces de cylindres pleins de trous, ça a l'air complètement dingue.
2D, alors, 3D ?
3D. Mm. Comme Sonic Colors, qui était fantastique, je vais en reparler juste après, mais des passages 3D super rapides avec des moments, ça va alterner en vision 2D où tu vas être un peu plus classique, etc. Le truc, un peu bizarre, c'est qu'il y a 6 nouveaux méchants qui ont un design plus que discutable, mais on s'en fout parce qu'il y avait Green Hill Zone sur un cylindre géant en HD, ça va très très vite, c'est cool. Et ça rappelle justement que l'une des dernières grosses exclus Nintendo Sonic, toujours bizarre de dire ça. C'était donc Sonic Colors sur Wii et 3DS, qui était un excellent jeu, qui est un peu passé sous le radar de beaucoup de gens malheureusement. Donc voilà, j'attends beaucoup de ce Sonic Lost World.
Et il est prévu pour quand ?
Il n'y a pas de date précise, je crois. On en saura un peu plus à l'E3. Et je suis très pressé d'y jouer.
Allez. Tu seras à l'E3, toi ?
Oui.
Oh, faudra qu'on s'appelle. On s'appelle. Tu vois, tu pourras nous faire un duplex.
On s'enverra des petits mails d'amour.
Un duplex silence on joue de Los Angeles. Oui, parce que d'habitude c'était Patrick, mais Patrick il y va pas cette année.
Donc c'est toi qui auras le plaisir de te lever à 3h du matin pour répondre
pour faire des
coups de fil derrière Cario. Tu verras, c'est
formidable. Patrick.
Eh oui, alors justement, je vais rebondir sur. On parlait de Sega, on parlait de l'E3. Alors c'est devenu, moi, depuis quand même quelques années que je suis l'E3. Ça fait quelques années que Sega s'est retiré du marché de la console de jeux.
Hein, oui,
ça
oui.
C'est quand même un petit moment.
12 ans.
Et tous les ans, à peu près, c'est quasiment un rendez-vous incontournable. Il y a toujours la rumeur comme quoi une nouvelle console de Sega serait présentée autour de l'E3. On disait non, au fil des années, ça va quand même s'arrêter parce qu'on sait maintenant que Sega, c'est un pur éditeur de jeux pour les autres machines. Et ben non, on a eu une rumeur qui vient de tomber il y a quelques jours. Moi, ça m'a fait rigoler parce que qu'est-ce qui m'a fait rigoler, c'est le nom de cette rumeur. C'est venu d'une photo qui s'est baladée comme ça sur les réseaux d'un projet Sega Spectrum.
le nom qui respire alors, déjà les années 90. Voilà,
avec un logo coloré comme ça. Alors,
c'est la suite de Sega 81.
Alors,
c'est ça.
ça fait rêver. Donc, alors, c'est une image qui s'est baladée. Alors, évidemment, ça a enflammé toute la communauté qui n'attendait que ça, comme tous les ans, d'avoir la rumeur sur une console. Oui, oui. On ne sait pas trop. Alors, est-ce que c'est un visuel qui a été trafiqué ? C'est pas impossible. N'empêche que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un service en ligne, ça peut être un jeu, ça peut être un MMO. On n'en sait rien.
Ouais. Donc, mais
ce qui est rigolo, c'est de voir que ça a enflammé complètement les gens qui attendent impatiemment un retour sur le hardware. Donc peut-être une console Spectrum, ça serait rigolo quand même, parce que Spectrum c'est pas un nom complètement neutre, hein, les inconsolables des années 80 se rappellent que c'était un ordinateur anglais mythique. D'ailleurs c'est assez rigolo quand on voit un petit peu ce qui se passe sur les consoles next gen, quand on voit que je crois que c'est le processeur AMD Jaguar qui équipe la nouvelle 360, la nouvelle Xbox. On dit il y a peut-être des lobbies un peu rétro, ça qui injecte des noms, à faire à suivre. En tout cas, donc cette chose Spectrum, ça serait prévu pour le 12 juin, donc en pleine E3. On verra ce que ça va faire. Et en tout cas, il y a d'autres rumeurs. Tout ça, c'est toujours autour de Sega. Sur Shenmue 3, ça c'est aussi une rumeur récurrente tous les ans. Pareil, ça fait une dizaine d'années qu'on a la rumeur Shenmue 3. Et là, la dernière chose qui, pareil, était visible sur les réseaux sociaux, c'est que le doubleur du personnage principal de Shenmue 3 a été vu enregistré dans un studio, enfermé dans un studio d'enregistrement, en train de faire une voix. Donc on se dit, est-ce qu'il serait en train de doubler pour un nouvel épisode mettant en scène ce fameux personnage de Ryo qui était
au hasard pour n'importe quel autre jeu
Alors visiblement il aurait fait que ce personnage pour Sega, c'est ce qu'il se dit. Donc
il sera un guest pour le prochain Yakuza.
Mais voilà, ça peut être évidemment tout le monde a parlé aussi d'une exclue pour Wii U, parce qu'effectivement Yakuza 1 et 2 ressortent je crois sur Wii U au Japon. Donc les esprits s'enflamment. En tout cas on voit que ce sont des choses qui sont récurrentes tous les ans et qui sont attendues de pied ferme. Donc on va suivre ce projet Spectrum, voir si ça se confirme ou pas. Et puis un dernier, une petite news en passant, pour dire que moi je suis de plus en plus fan des gens de Techland. Hein, on va en parler aujourd'hui d'un de leur FPS, donc Call of Juarez, dont on va parler dans quelques minutes. J'ai dit tout le bien que je pensais de Dead Island, Dead Island Riptide, qui m'a bien parlé.
C'est parce que ça s'appelait Riptide, c'est tout.
Et pas seulement, il y a aussi les zombies, les îles, etc. Et alors, l'info de la semaine.
Ah oui, parce que.
Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a un jeu arrivé qui va s'appeler Dying Light, qui sera publié chez Warner, qui arrivera l'année prochaine. Donc c'est Techland qui est aux commandes. Et alors c'est assez prometteur parce que il y a quelques images qui sont passées. Alors on reprend le principe d'une invasion de zombies. Donc ça c'est important.
C'est original.
En FPS.
C'est original.
Monde là tout va bien.
Avec monde ouvert urbain et cette fois avec gestion du cycle jour nuit etc. Et avec donc des comportements des monstres qui vont changer visiblement, c'est la promesse, entre le jour et la nuit. Donc
ils vont aller un peu plus vite.
Je vous sens emballé. Mais voilà, je les encourage ces gens-là parce que je trouve qu'ils ont des bonnes idées.
Vas-y.
Et moi, Techland, donc c'est le studio polonais de Techland, je suis derrière eux. Allez-y, donc ce Dying Light, moi j'ai envie de voir ce que ça donne. Je pense qu'on en saura très bientôt plus.
Est-ce que Dying Light, il n'y avait pas aussi un côté justement Mirror's Edge apparemment de prévu?
Oui,
il y avait un peu de parcours et c'est un peu plus courir en tabassant des zombies.
J'avais compris, sur le fait qu'on est en plein monde urbain, c'est qu'on n'est plus du tout dans l'univers Dead Island qui était plus sur le.
Qui n'est pas du tout urbain pour le coup.
Donc là, il y avait un côté de courir sur les, comme tu dis, sur les toits, etc. Ouais. Et voilà, donc ça c'est, il est annoncé donc pour 2014 sur les consoles actuelles et sur les deux next gen qui seront là d'ici là.
Ça reste Techland,
Ça reste Techland, donc avec
Des zombies qui font du parcours.
Ah non, non, c'est toi qui fais du parcours pour éviter les zombies.
Bah ouais, mais ça veut dire qu'il y a des zombies qui te collent au cul en faisant du parcours aussi.
Ils sont
parce
beaucoup,
qu'autrement,
ouais, c'est pas possible.
Parce qu'autrement, tu sautes d'un toit à l'autre et là tu te dis.
Et surtout, tu pourras faire en théorie, bien sûr, du parcours avec ta masse gigantesque et modifiée pour être électrifiée comme dans Dead Island, machin, et ça posera aucun souci, bien sûr.
Ouais, non, mais il faut se rappeler que dans Dead Island, ils sont assez agressifs, les zombies. Donc on peut en avoir quelques-uns quand même qui
font du parcours, quoi. Non, mais c'est.
Et on sait pas, le héros en fera peut-être, mais.
Arrêtez, quoi. Mais attends, le parcours. Déjà, les zombies qui courent, ok, mais alors des zombies qui se mettent à sauter. Bon,
ouais, peut-être le héros, mais ils font ce qu'ils veulent, les zombies. Puis on verra, on attend de voir.
Le pauvre Patrick qui veut défendre son Techland là.
Ouais, on va en reparler de Techland très très
vite. Rêver, moi, il faut rêver.
Moi je voulais signaler aussi, de mon côté, ça vient juste de sortir, c'est Damsel in Distress volume 2. Donc c'est la deuxième partie de la trilogie Damsel in Distress qui fait partie de la série Tropes vs Women in Video Games de Anita Sarkeesian. Donc Anita Sarkeesian, on s'en souvient, de Feminist Frequency qui avait déposé qui avait financé sur Kickstarter un projet de série de vidéos sur le sexisme, enfin l'image des femmes dans le jeu vidéo. La première, les trois premières vidéos sont consacrées au stéréotype demoiselle en détresse. Il y en aura d'autres, hein. Donc les trois premières, c'est un triptyque sur les demoiselles en détresse. Donc là, c'est le deuxième. La première était excellente, cette deuxième vidéo est tout aussi excellente. Et elle aborde notamment le stéréotype de la femme dans le frigo, qu'on connaît peu, hein, mais la femme dans le frigo, ça vient d'un épisode de Green Lantern, hein, de la fin des années 90, où en fait il retrouve sa femme morte dans un frigo et pour relancer, parce qu'il devient motivé parce que sa femme est morte. Et donc,
c'est pas
en
lui
fait...
qui l'a mise.
Non, 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 c'est le méchant, mais en fait, comme c'est l'élément scénaristique de la femme qui meurt pour motiver un peu le héros masculin, et en fait, on se rend compte que c'est un peu un système récurrent dans le jeu vidéo, et elle parle aussi, et ça c'est assez marrant, les effets de répétition du mariage assez incroyable entre Damsel in Distress et Woman in the Fridge, c'est-à-dire que en fait la femme du héros est morte, donc il doit aller sauver sa fille, et donc on se rend compte que dans énormément de jeux, la femme du héros est morte, il doit aller sauver sa fille, la femme du héros est morte, il doit aller sauver sa fille, ou
encore
alors
aujourd'hui
encore Max Payne récemment, non pas Max
non.
Payne, non Max Payne c'était un autre, Azuraz Ross.
Max Payne, il se fait tuer sa femme, sa fille, il n'y a pas de souci.
Azuraz Ross, non, il n'y avait pas ça.
Azuraz Ross, il y avait un peu de ça, mais je crois
et
que ça.
Et oui, récemment, oui. Il y en avait eu quelques-uns aussi. Et puis, en fait, il y avait aussi le mariage entre les deux, c'est-à-dire la femme est morte, mais il faut aller sauver son âme.
Ah.
Notamment dans The Darkness 2 récemment et dans pas mal de choses.
Alors dans ce cas-là, Orphée, si on remonte, c'est déjà.
Dante Inferno, non, aussi, peut-être.
Dante's Inferno aussi.
Ouais, mais là, en l'occurrence, c'est le mythe d'Orphée qui est relu dans Dante's Inferno, quoi. C'est...
Non, enfin, le fait est qu'il y a la répétition, ouais. La répétition de ces éléments. Enfin, la vidéo est super intéressante. Elle est pour l'instant en anglais, mais comme la précédente, elle sera sous-titrée en français dans très très peu de temps. Voilà, c'est sur YouTube, sur Feminist Frequency, c'est Anita Sarkeesian et c'est vraiment très très bien. Le com des com de la semaine dernière, il y avait comme une petite annonce de nouvelle console à venir qui s'appelait la Xbox One, donc évidemment plein de commentaires enflammés. D'abord sur la rétro-compatibilité avec Kintaro qui nous dit pourquoi vous êtes étonné, les consoles ne sont non rétro-compatibles. Donc en fait, parce qu'on s'étonnait pour l'aspect Xbox Live Arcade.
Les jeux des maths.
Et lui, c'est même pourquoi vous êtes étonné si c'est pas trop compatible sur les jeux en boîte, c'est pas trop compatible sur les jeux des maths, voilà, c'est normal. Ataraxo qui répond, mais on va y revenir sur ce point-là en particulier, mais Ataraxo qui répond, l'étonnement n'est peut-être pas la réaction la plus adaptée parce que jusqu'ici la rétrocompatibilité a plus été l'exception que la règle. Ce à quoi d'autres gens du forum qui sont très réactifs, notamment Red, Ojopin et Je ne suis pas un robot, qui ont fait la compile des systèmes rétrocompatibles. Ouais. Ils ont dit Master System sur Mega Drive avec un convertisseur,
Plus possible les statisticiens sur le forum. Hein,
Master System sur Game Gear avec un convertisseur, Game Boy sur Game Boy Advance, Game Boy sur SNES avec un convertisseur, GBA sur et DS, ouais. DS sur 3DS, GBA sur GameCube avec un convertisseur, GameCube sur les premiers. Oui, sur vrai. Wii U, PS1 sur PS2, PS1 sur PS3,
ouais.
PS2 sur les premières PS3 et Xbox sur Xbox 360, comme quoi la rétrocompatibilité n'a pas été vraiment l'exception dans le jeu vidéo jusqu'ici. Mais ceci dit, je voulais juste revenir sur ce côté XBLA non rétrocompatible. Effectivement, si les jeux sont non rétrocompatibles, c'était. Mais c'est plus choquant parce que d'une part, on va garder son compte Xbox Live. Donc il y a une espèce de cohérence à garder un peu son compte. Comme et maintenant il y a Steam. Et Steam, ça change tout, quoi. Steam, si on change de PC, on garde ses jeux Steam. On va pas arrêter, on va pas. Si on change de PC, on va pas perdre tous ses jeux Steam et puis de vous devez racheter.
Mais le plus fou sur Xbox One, si tu gardes ton compte, c'est-à-dire que tu gardes tes achievements de jeux donc où t'as pas forcément fini le truc.
Non, t'auras plus le jeu en fait.
T'auras plus le jeu et t'auras genre achievement, tu sais, 900 sur 1000 et tu dis mais.
Avec la larme à l'œil,
tu pourrais plus jamais le finir.
Ouais, parce que derrière le démat, il y a quand même cette promesse. Pour moi, un des intérêts du démat, c'est la promesse de garder les choses sur le temps. Enfin, c'est une.
Oui, et puis de pas être obligé forcément de garder toutes ses consoles entassées dans son salon. Alors Marmotte 19, lui, ça a la rétrocompatibilité, il s'en fout, il dit je ne suis toujours pas d'accord, la liste est discutable, premièrement, qui dit la liste précédente là, qui dit adaptateur dit nouvel investissement, et si je ne dis pas de bêtises, l'avantage principal d'une rétrocompatibilité, c'est de pouvoir revendre sa vieille machine pour acheter les nouveaux jeux sur la nouvelle. Quel intérêt alors, enfin bref, de payer un nouvel adaptateur aussi cher, voire plus que le gain réalisé sur la vente d'une vieille machine. Deuxièmement, pour les exemples X360 et PS3, c'est plus que limité. Sur Xbox 360, seuls 50% des jeux Xbox sont acceptés. Sur PS3, seule la FAT supporte les jeux PS2. Mais on le sait tous désormais, pour la PS4 et la Xbox One, c'est mort. Donc c'est plus une habitude chez Nintendo qu'une coutume courante dans l'industrie. Mais moi, le truc, c'est que j'ai pas envie, si par ailleurs, ça devient un peu de plus en plus discutable qu'on se jette sur la Xbox One ou la PS4 quand elles sortiront. Mais bon, c'est un peu notre métier, donc on sera peut-être un peu obligé de les avoir. Et moi, ça m'embête d'avoir 150, j'ai pas de la place pour avoir 150 consoles connectées pour pouvoir. Et surtout, ouais, je reviens sur les jeux des maths, quoi. Si j'ai envie de me refaire un Flower ou un Braid ou un Limbo, enfin Limbo, non, mais parce qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Mais, bref,
c'est pas super.
Non, j'aime bien. Enfin, voilà, tous les jeux.
Mais ça va contre le statut d'œuvre.
Un Minecraft. Si j'ai envie de rejouer. Enfin, bon, bref.
Mais même Battleblog, justement. Enfin, il y a tout. Enfin, il n'y a même pas à donner de nom. C'est quand même c'est scandaleux. Quoi.
C'est atroce.
Parce que. Enfin, ouais. Pardon, j'allais repartir dans une diatribe et m'énerver.
Eh bien, en fait, il y a Force Tranquille qui s'est énervé un peu pour toi. Non, mais en fait, il a fait un espèce de post récapitulatif. Donc, je voulais le lire. Il commence à dire, si Sony annonce dans 2 semaines à l'E3 que la PS4 lit les jeux d'occasion et la connexion n'est pas obligatoire et à un prix inférieur à la Xbox One, alors là, s'ils sont un peu malins et s'ils avaient anticipé tout ça, ils gagneront la bataille haut la main. Bon, là, je rêve, je suis persuadé que le prix sera similaire à cette Xbox One avec les mêmes contraintes. Franchement, la conférence de Sony, c'était bidon, on n'apprenait pas grand-chose. Là, avec la Xbox One, ils ont réussi à faire pire avec une console moche. Je suis désolé, je ne trouve pas d'autres mots. Et des contraintes en veux-tu, en voilà. Il faut se connecter, il faut utiliser Kinect pour s'identifier, il faut installer les jeux, il faut utiliser les codes d'activation, il faut lire les jeux d'occasion avec son propre compte quand on va jouer chez les autres, il faut. Ils peuvent pas faire juste une machine pour jouer. On achète un jeu, on l'insère et on joue sans problème. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il y a tellement de progrès à faire dans le jeu vidéo. Réduire les temps de chargement, réduire les bugs, faire des mondes ouverts qui t'éclatent les rétines, un mélange Skyrim Fallout avec des graphismes genre Heavy Rain avec des jeux d'acteurs par exemple, améliorer les serveurs en ligne et les boutiques en ligne, des machines qui durent plus longtemps, des machines moins bruyantes. Il y a plein de progrès à faire. Pourquoi est-ce qu'ils vont dans toutes ces directions à la con et penser aux contraintes avant de penser aux avantages. Voilà, c'était un peu le bilan de Force Tranquille. Je suis assez d'accord. Alors il y a eu des nouvelles, il y a eu des confirmations et des choses un peu inquiétantes, notamment sur le Kinect Always On, sur le Kinect qui te filmera, enfin en tout cas qui sera. Bah, on sait pas s'ils te filment. Eux, ils disent, c'est pour écouter si quelqu'un dit Xbox On dans la pièce, machin. Sauf que ce Kinect, il sera allumé. Enfin, c'est quand même horrible. Enfin, je sais pas tout. Tout ce qui a été confirmé depuis la semaine dernière, c'est une catastrophe en chaîne.
Mais en fait, j'ai l'impression que ça confirme, ça reconfirme, ça déconfirme, ça damage control par ici, ouais, ça retourne la veste par là. Jusqu'à l'E3 et les vraies confirmations sur papier par communiqué de presse officiel machin, je sais vraiment pas quoi prendre pour argent comptant, que ça vienne de Microsoft ou de quelqu'un d'autre ou de
Major Nelson
ou
machin.
Je sais, mais j'en suis arrivé à un point où eux se contredisent tellement que même quand ils me disent là actuellement quelque chose, je ne suis pas certain.
Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison.
Ils font eux-mêmes machine arrière sur les trucs qui ont été dit à la conf. Major Nelson annonce un truc, Don Matrick dit non, mais c'est pas vrai parce qu'en fait on s'est trompé, on l'a mal dit. Wow. Enfin, au bout d'un moment, qu'ils accordent tous leur violon et qu'on puisse savoir où on est.
Mais Phil Harrison aussi qui a dit pas mal de choses.
Ah, Phil Harrison.
Il a été bien, Phil Harrison.
Il a pas mal parlé.
L'homme qui coulait les consoles. Enfin, bon, passons. Mais non, enfin. Ouais, pour l'instant, je sais même pas. sincèrement ce qu'on peut dire fou. Concrètement sur cette console, c'est ça qui est fou quoi.
Alors on peut dire au moins, on peut signaler le numéro de Canard PC qui sort cette semaine, hein, Pipo.
Tout à fait.
Faire un
wow, j'ai pas vu venir celle-là, ça me plaît
un
beaucoup.
Un peu de pub parce que c'est un numéro quand même sur un magazine qui s'appelle Canard PC qui fait sa une sur une console.
Ouais.
Xbox One, la fracture.
Exactement.
Un long papier de notre ami Ned Sabès. Voilà, le constat est clair. La une est
éclair aussi.
voilà, il y a vraiment, mais je pense qu'il y a vraiment un truc qui s'est passé. Même si on dit qu'ils vont faire du damage control, même si on dit qu'ils ont lancé des pistes et puis ils essayent de tâtonner pour voir est-ce que ça réagit, est-ce que ça réagit pas, est-ce qu'on fait un pas en arrière, est-ce qu'on conserve notre position. Je pense qu'il y a vraiment un truc de l'ordre. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre de SimCity et Electronic Arts. C'est de l'ordre de ce foutage de gueule là. Voilà, moi ça me rappelle SimCity, ça me rappelle hein, des plantages comme ça. Sauf que bon, la Xbox One n'est pas sortie.
Voilà.
Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de on se fout de la gueule des joueurs et
en même temps, je crois que j'ai vu cette semaine qu'ils avaient explosé les records de précommandes sur Blockbuster.
C'est terrifiant.
Sur cette console. Donc,
je le répète parce qu'on le dit nous tout le temps chez Canard PC, mais ne précommandez pas, sincèrement.
Jamais. Il n'y a pas besoin.
Et encore moins pour une skin ou un bout de DLC mytho.
On parle d'une console là en plus.
Oui, voilà, bon, il n'y aura pas de bonus.
Arrêtons avec la Xbox One, partons au Far West, c'est mieux là-bas. They say that this is the land of the free. Where freedom is whatever a man chooses it to be. And so is the law. When justice is bought and paid for, enforced by the man with the quickest draw, who's to say what freedom or even justice means? John Wesley Hardin, Billy the Kid, Jesse James. They all made their choice, and I've made mine. They'll find out soon enough. Call of Juarez, Gunslinger, Call of Juarez, série sympathique,
série médiocre, on peut le dire.
Le dernier épisode était plus que médiocre, une sombre merde.
Cartel, j'ai jamais essayé celui-là, mais on en a beaucoup parlé.
Non, il fallait pas. Cartel, c'était pas bien. Call of Juarez, ça a jamais été une bonne série, on est d'accord. Sauf que avant Red Dead Redemption, il y avait comme un manque. Le western était voilà.
Attention à ce que tu vas dire. Il y a eu Red Dead Revolver, il y a eu Gun, il y a eu quand
oui,
même.
Mais voilà,
y a eu des trucs. Red Dead Revolver, c'est un super jeu de Capcom. Gun, c'était quand même super cool aussi. Et non, il n'y avait pas de manque western. Il y avait des bons jeux. Les Call of Juarez n'étaient pas des bons jeux.
Mais moi, je sais pas. J'ai eu une sympathie pour les Call of Juarez, même si j'ai jamais trouvé que c'était des bons jeux, effectivement. Mais bref, surtout pas le dernier. Hein, on le dit, Cartel était vraiment horrible. Et il débarque en version dématérialisée. Il débarque sur le Xbox Live Arcade, notamment sur le PSN aussi. Je ne sais plus.
Je sais pas.
Et PC. C'est un FPS. Ça reste un FPS. Ça reste un western. On revient dans le western. On arrête les trucs moderne à la con. Et on incarne un chasseur de primes, Silas Greaves, vieillissant, qui a fini un peu sa carrière, ex-chasseur de primes qui arrive dans un saloon. Alors ça, c'est façon BD, hein, c'est un passage dessiné, il n'y a pas de cinématique, c'est des dessins, plutôt classe d'ailleurs, hein, au passage. Et là, vu que c'est un peu une légende de l'Ouest, les gens autour de la table lui demandent de raconter ses aventures, et donc il commence à raconter sa rencontre avec Billy the Kid, et puis on va voir comme ça débarquer un peu tous les personnages mythiques de la de la mythologie du Far West. Billy the Kid, Jesse James, Pat Garrett, le gang des Dalton, Wyatt Earp, etc.
Tu me disais qu'il n'y avait pas Calamity Jane apparemment.
Moi je ne l'ai pas. Peut-être qu'elle est
injustice.
Non, c'est vrai. Mais voilà, il commence à raconter, et en fait c'est la voix off, c'est donc le personnage principal, Silas Greaves, qui raconte son histoire dans le saloon, et Et puis voilà, il raconte ses souvenirs et nous on joue ses souvenirs. Alors évidemment, on ne se pose pas. Alors on est sur du jeu des maths, hein, on est sur du jeu à une quinzaine d'euros. On n'est pas ni sur un monde ouvert, ni sur un gros jeu à scénario. C'est-à-dire des missions avec des méchants, un boss de fin. Et voilà, c'est à peu près tout. On va pas non plus s'embêter, on va pas aller chercher plus loin. Et puis voilà, Patrick, tu y as joué. C'est quoi ton ton avis?
Plutôt une bonne surprise. Enfin, moi j'ai trouvé que, enfin, dans ce côté rentre dedans en direct du jeu, je trouve que c'était bien foutu. Il y a une petite astuce au niveau de la narration qui est plutôt rigolo, parce que le personnage donc raconte ses duels ou ses affrontements qu'il a eu avec ses personnages, puis revient un petit peu des fois sur ce qu'il raconte, parce que bah finalement non, c'est pas passé comme ça. Donc ça c'est
ouais,
c'est
en fait
rigolo.
Il y a des rewinds genre c'est là que je l'ai croisé, on a fait un duel, alors tu gagnes le duel, non en fait il n'y a pas eu de duel et puis en fait là il s'est assommé direct, en fait il y a un espèce de rewind
voilà, donc c'est rigolo, mais bon c'est vrai que la narration est marrante, mais c'est pas le cœur du jeu, c'est pas un jeu narratif, c'est pas un jeu, on est vraiment sur du pur shoot western, et là je trouve qu'il le fait bien, enfin, je trouve qu'on retrouve vraiment j'ai retrouvé ma certaine sensation de Outlaws, vous vous rappelez le fameux jeu de LucasArts qui a quand même quelques années maintenant, mais qui j'ai retrouvé cette sensation des armes, un côté sec, brillant, précis quand
très
même.
Bon, très bon sound design.
Ouais, mais
armes, très bon feeling.
Ça défouraille bien en fait. C'est ça que j'ai trouvé. Le jeu, il essaie pas de nous emmener dans. Il essaie pas de faire quelque chose qui sait pas forcément faire avec le budget qui devait être plutôt limité.
Ouais.
Mais ce qu'il délivre, il le fait bien. Et c'est vrai qu'on a un bon shooter. Donc moi, comme je disais, qui retrouve un petit peu les mécaniques de jeu d'un Outlaws. Et puis il y a cette espèce d'ambiance à la Mad Dog McCree avec les clichés un peu western, avec la mise en scène, les mecs qui tombent quand on les shoot. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé vraiment comme bonne surprise, c'est ça, c'est le rythme. C'est vrai qu'on est vraiment sur de l'action, il n'y a pas de perte de temps, on avance, on shoot. Mais
il
n'y
a pas
d'énigme. Le jeu tient sa promesse. Et je trouve que c'est bien rythmé, que c'est bien foutu, que c'est précis et c'est très jouable. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment fun à jouer. C'est fun à jouer, voilà. Et c'est ce que j'ai vraiment retenu de.
Alors voilà,
du gameplay,
le truc, c'est que c'est un FPS, certes. On est à la limite du rail shooter quand même. On n'est pas loin.
En fait,
on est pas loin.
En fait, c'est plutôt bien foutu. Moi, je pense que c'est un rail shooter, mais assez bien déguisé pour qu'on ait l'impression d'être un peu libre. Enfin, on n'est pas libre, mais on a un peu l'impression de découvrir au moins le chemin. Parfois, on a une aide pour savoir où aller, etc. Et il y a aussi, moi, j'aime bien le visuel parce que en général, on est sur du réaliste et ça marche pas forcément sur un jeu à plus petit budget. Là, je trouve qu'il y a eu un mix entre du réalisme et du cel shading, mais bien fait entre les deux.
C'est du cel shading sursaturé.
Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien.
Au niveau des couleurs et tout, ça rend pas mal.
J'ai trouvé que ça contribuait aussi à cette précision, à ce gameplay sec que moi j'ai bien apprécié. Sur le justement quand on veut faire un headshot etc, je trouve que ça fonctionne bien d'avoir des personnages un petit peu plus épais visuellement et je trouve que ça marche bien.
Un shoot arcade c'est plutôt intelligent
Voilà, je trouve que tout ça fonctionne bien, enfin je trouve que la recette est
c'est
enthousiasmante,
c'est le côté très arcade avec deux petits trucs qui ajoutent un petit peu un système de jauge qui se remplissent une jauge de concentration ou façon western, c'est-à-dire que là on se concentre, le temps s'arrête pendant 3-4 secondes, les ennemis sont en surbrillance rouge
comme
et là bam, bam, bam,
ça va assez vite
c'est plus court que Red Dead, donc il faut vraiment une question de de réflexe et puis une deuxième jauge de tir mortel qu'une fois qu'elle est remplie on peut éviter un tir mortel, c'est-à-dire on voit la balle et puis il faut choisir aller à droite ou à gauche. D'accord. Et puis on peut l'esquiver et c'est plutôt pas mal fait une énergie dans le shoot c'est l'adrénaline. On est sur du pur arcade, voilà, c'est, comme je dis, à la limite du rail shooting, mais bon c'est du FPS donc on peut bouger, on n'a pas cette impression d'être sur des rails pas trop et puis il y a ce magnifique gameplay de duel il faut en parler parce que c'est vraiment la trouvaille, c'est vraiment le truc où moi je suis tombé dedans mais à mort. C'est un gameplay parce que c'est difficile le gameplay de duel. Je sais pas si vous vous souvenez, Red Dead Redemption, c'était un gros plantage de Red Dead Redemption.
Ça m'avait pas choqué.
Mais ça m'a pas choqué, mais tu t'en souviens
pas.
J'en
ai pas de grands souvenirs. Voilà,
donc
c'est
vraiment le truc où normalement le duel dans un western,
dans
c'est vraiment
film,
le,
ouais, y a, c'est y a, le point y a, culminant. Hein.
Ouais, et puis il y a une montée en tension c'est dans Red Dead Redemption, ça avait pas dans certains Call of Juarez de mémoire, il y avait des systèmes qui tenaient un peu la route, mais là c'est vraiment absolument génial. Alors pour expliquer ça en quelques mots, on a une première mire qui est donc sur l'adversaire qui est mobile, donc qui bouge un petit peu, et on doit garder une mire qui diminue sur l'adversaire pour faire monter un premier compteur alors, de pourcentage de précision. En fait.
Ça c'est le stick droit. Si
ça c'est le stick droit. Et avec le stick gauche, on doit gérer sa main pour la mettre bien au-dessus du revolver pour faire monter un pourcentage de rapidité.
C'est pas évident, s'il faut suivre les deux.
Il faut vraiment suivre les deux, ouais, et c'est vraiment pas évident. Ouais. Et surtout, évidemment, à la fin, donc en fait là, on entend le cœur du personnage battre, et là, on sait que c'est le dénouement va arriver. Donc il faut surtout pas lâcher ni la mire ni la main à ce moment-là, parce que les pourcentages qu'on avait bien montés peuvent diminuer si on se met à faire n'importe quoi. Mais à partir de ce moment-là, il faut attendre un premier mouvement de la part de son adversaire pour faire une fois sur la gâchette droite. Donc là, on déclenche son mouvement. Là, une mire, en fonction de son taux de sa précision et de sa vitesse, une mire va commencer à se créer sur le personnage, et une deuxième fois sur la gâchette droite pour tirer. Et donc, ça crée un espèce de truc absolument génial. D'une part, une tension au moment de la préparation du duel, et vraiment un truc où il faut être hyper rapide et de réflexe pur au moment du tir. Et voilà. Et quand on gagne un duel, on a vraiment l'impression de gagner un duel. Et vraiment exceptionnel.
Oui, t'as l'air.
Parce que en plus c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a le mode jeu et il y a un mode duel. Le mode duel, on a 5 vies, on a 15 mecs à buter. Et donc, on doit les buter les uns après les autres avec un score. Parce que oui, on a oublié de parler, Gunslinger est un jeu de scoring aussi. Il y a un mode arcade avec des niveaux où on doit faire les meilleurs scores. Le mode duel, c'est un mode de scoring avec on compare ses scores avec ses petits camarades sur le Xbox Live ou sur les réseaux. Et chaque niveau est aussi un système de scoring. Si on fait un headshot, si on fait des séries, en fait, en plus, si on fait des séries de kills, les scores augmentent, etc. Bref, c'est aussi un jeu de scoring.
La bullet storm.
Ce genre de choses. Et le mode duel, c'est un système de scoring. Et s'il faut arriver avec ses 5 vies. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'on pouvait aussi éviter d'être honorable dans les duels, parce que j'ai parlé qu'on pouvait tirer à partir du moment où on voit son adversaire bouger, on peut tirer avant. On gagne plus facilement, mais on n'est pas, c'est pas très honorable.
C'est pas glorieux, quelque chose d'ailleurs de pas être glorieux dans le gameplay ou pas du tout.
En scoring,
fait moins de points.
En scoring, c'est moins bien, et puis en XP aussi, parce qu'il y a, il y a un système d'XP dans le jeu où on débloque des compétences aussi.
De la manière dont tu m'en parles là, c'est un jeu Techland, c'est un espèce de fourre-tout de mécanique.
Attention à ce que tu vas dire sur Techland.
Mais c'est bien pour ça que je le dis. Non, mais c'est vrai que souvent les jeux Techland, c'est un fourre-tout de mécaniques qui sont pas toujours cohérentes les unes avec les autres. Alors, ça donne un jeu bancal, souvent sympathique. J'avais beaucoup aimé le premier Dead Island. Mais.
On sent qu'il y a bancal, des expériences. C'est ce qui, moi, me plaît chez eux parfois.
Mais là, justement.
Ils apprennent pas de leurs expériences, c'est le problème.
Mais là, on n'est pas sur le même gabarit de production.
Oui, voilà, c'est ça qui est intéressant.
Sur un jeu,
et on
au
est
même
sur
prix,
une prod très arcade. Et donc,
c'est là que ça passe peut-être mieux.
Moi, c'est vraiment le Mad Dog McCree que je me faisais dans ma tête il y a 20 ans quand je jouais. On imaginait que c'était en temps réel et tout ça. Et là, on l'a en vrai, donc c'est plutôt rigolo. Et il y a une belle diversité des niveaux, je trouve. Visuellement, tous les canons du western, en fait, la grotte,
la mine,
il y a autre chose que le village poussiéreux, quoi.
C'est, salon,
c'est cool. Il y a aussi les petits trucs de paille qui se baladent,
les tumbleweeds.
Il y a tous les clichés aussi, donc ça, c'est marrant.
Ah oui, alors là, il y a tous les clichés du Far West, hein. c'est formidable à ce niveau-là. Voilà, donc Call of Juarez Gunslinger à télécharger sur tous les supports où on peut télécharger des trucs, sauf les supports mobiles. Voilà, et la Wii U. Enfin bon, bref.
Et la Dreamcast.
Et maintenant, on va retourner jouer à Donkey Kong Country Return, mais cette fois-ci sur la 3DS. Oui. Donkey Kong Country Return 3D. Donc, en fait, c'est le portage quasiment à l'identique, mais on va en parler, pas justement à l'identique, mais c'est quasiment à l'identique de ce jeu magnifique qui était Donkey Kong Country Return sur la Wii, qui était vraiment, j'étais un peu tombé dedans, j'avais beaucoup aimé jouer à ce jeu. Il a été annoncé il y a quelques mois, je crois.
Il est sorti très vite.
C'est sorti très très vite. C'était lors de ces Nintendo
Direct.
Direct. Pipo, on va commencer par toi, tes impressions.
Eh ben, ok. Pour moi, l'histoire de Donkey Kong Country Returns, elle est assez compliquée parce que j'avais eu de gros soucis avec la version Wii. Puisque c'était, alors je voyais toutes les qualités du jeu, ses qualités de level design, ses qualités visuelles même, ses qualités sonores, tout. Mais il y avait un gros problème qui était un choix de maniabilité de la part de Retro Studio, donc les développeurs du jeu qui sont les développeurs aussi de Metroid Prime, pour ceux qui connaissent, excellente série.
Pour ceux qui connaissent, ça... vous êtes un peu censé connaître, bordel.
Ah ouais, GameCube, ça commence un peu à vieillir là.
Oui, c'est vrai. Oh non, dis pas ça.
Ouais. Et donc en gros, ils ont fait un choix de gameplay qui est assez particulier, c'est-à-dire que pour effectuer la roulade, qui est un des mouvements les plus importants du jeu, puisqu'il sert à toucher les ennemis autant qu'à se donner des boosts avant de sauter, etc., il fallait secouer la Wiimote, qu'on tenait normalement comme une manette, en fait.
Ouais.
Et là, il fallait la secouer pendant qu'on la tenait comme une manette. Donc, c'était assez particulier. Il y avait une espèce de latence. C'est un jeu qui est quand même très précis. On reviendra là-dessus. Mais pour moi, ce choix tout bête de maniabilité m'a pourri tout le jeu.
Ouais, mais c'est pour ça que j'ai envie de taper à chaque fois les gens qui te disent que c'est vachement bien les nouveaux styles de gameplay.
Ah bah non, ouais, voilà.
Les boutons, les sticks et les gâchettes, bordel, il y a que ça de vrai.
Bien sûr.
Voilà.
Et je suis pas pressé de jouer à Super Meat Boy à Kinect par exemple. Tu vois. mais donc voilà, là sur cette version 3DS, le jeu donc est effectivement comme tu le disais plus ou moins identique, sauf que on n'a plus besoin de secouer la 3DS pour faire des roulades et ça change absolument tout. Le
heureusement,
jeu devient.
Heureusement.
Avec le gyroscope, en plus tu manques de la péter toutes les deux secondes. Mais du coup, le jeu devient maniable et donc on profite enfin de sa qualité visuelle, de son level design qui est indécent d'intelligence, tellement il y a vraiment des niveaux fantastiques. Que ce soit les niveaux, alors donc c'est vrai que je m'éparpille un peu, mais à la base, c'est une relecture de Donkey Kong Country, le jeu Super NES.
Donc avec Signe Rare à l'époque. Hein,
Signe Rareware, c'est vrai.
Anglais.
Avant qu'ils se mettent à designer des avatars pour Microsoft. Quelle tristesse. Mais en gros, voilà, c'est une relecture de ce Donkey Kong Country qui était déjà à la base un jeu donc de plateforme assez classique avec des trucs cachés partout. Il y a au moins deux salles secrètes par niveau.
Qui avait été une baffe à l'époque.
Ah oui, même techno, visuel, ouais.
Techno, enfin sur Super NES, il avait. Je me rappelle qu'il était, il arrivait en fin de vie de la Super NES où elle était déjà bien avancée.
Milieu, parce qu'il y en a eu trois quand même sur Super NES.
Ouais, c'est vrai qu'il y en a eu trois. Mais ouais. Il montrait déjà ce que serait la génération d'après. Enfin, je me rappelle qu'il avait quasiment une génération de consoles d'avance. Ce jeu.
C'est-à-dire qu'au moment où il a été annoncé à un E3, les gens pensaient que c'était la 64 qui était annoncée.
Exactement.
En fait.
Parce que les persos étaient modélisés en 3D.
C'est
vrai que c'était à l'époque hallucinant.
Des trucs cachés partout. On retrouve le Rambi, le rhinocéros sur lequel on peut monter. Enfin voilà, c'est Donkey Kong Country mais revu au goût du jour, sauf que on a rajouté une tonne d'idées qui pourraient être dans les meilleurs des Mario, des New Super Mario Bros. En fait, ça va être un niveau où on est sur une plage avec un raz-de-marée qui vient du fond de l'écran. Il faut se protéger du raz-de-marée en passant. Ça va être
ça c'était déjà dans le premier hein, sur Wii.
Ah oui, bien sûr, vraiment le plus par rapport à la version Super NES, en termes de level design. Un niveau dans la brume où donc il faudra attendre que la brume passe pour pouvoir passer les plateformes, un niveau où il faut inverser la polarité des plateformes du niveau, etc. Enfin, il y a presque une idée par niveau, un peu moins que dans un des derniers New Super Mario Bros. Mais ça reste une intelligence absolument incroyable. Il y aurait un bémol que je mettrais sur la maniabilité qui est un peu glissante. Et parfois, on rage parce qu'on tombe ou on négocie mal un saut à cause de la maniabilité qui flotte un peu. Mais à part ça, enfin, moi, je me suis régalé à découvrir chaque nouveau niveau, à rager. C'est un vrai jeu de plateforme exigeant.
C'est vrai qu'on sent que c'est un tout petit niveau, et encore pas tellement sur celui-là, un tout petit niveau en dessous d'un New Super Mario Bros. Ouais. Au niveau du level design, notamment, et des idées absolument folles à chaque niveau. Mais en fait, il y a ce côté jungle, il y a ce côté un peu luxuriant, aussi luxuriant dans les graphismes qui changent d'un New Super Mario qui sont toujours. Très stylisé avec leur style propre. Là, il y a ce côté un peu luxuriant de Donkey Kong, un peu rigolo comme ça que moi j'ai beaucoup d'affection. Patrick,
Comme toi, moi j'avais beaucoup, comme vous deux, hein, j'avais beaucoup aimé le jeu sur Wii avec les réserves qu'on pouvait avoir sur la maniabilité. Alors je crois qu'il y a quelques ajouts sur la version 3DS, hein, je crois qu'il y a quelques niveaux en plus.
La 3D. Non,
enfin il y a la 3D aussi mais qui est facile. Pas forcément ce qui ressort le plus, mais à la limite j'ai envie de dire on s'en fout. Ce qui compte c'est qu'on retrouve, je trouve qu'on a la quintessence vraiment de l'expérience visuelle et parce que c'est pour moi un jeu qui est au niveau de la réalisation qui est vraiment hallucinant quoi, ce Donkey Kong Returns. Aussi bien en termes de graphisme que de musique, les musiques sont vraiment splendides avec
musique c'est des remixes de l'épisode Super
exactement
Nintendo,
des reprises de musique qu'on a au fond de la tête qui sont jamais parties depuis 25 ans hein, on les a toujours toujours là et c'est vrai qu'on les réécoute là-dessus, c'est enfin c'est phénoménal. Je pensais même pas qu'on pouvait atteindre enfin retrouver comme ça un Donkey Kong Returns aussi bien. Je pense qu'il y a des petits changements visuels. Je pense que c'est adapté. J'ai pas lancé la version Wii pour vérifier, mais
ils ont adapté deux trois petites choses à la 3D par exemple.
C'est super bien fait quoi. Enfin je trouve que il y a une harmonie visuelle sonore et de gameplay. Je trouve que le gameplay et le petit détail qui m'a tout de suite emballé, c'est qu'on a le choix de choisir entre le stick analogique ou la croix. Alors ça, tout de suite, c'est le truc qui peut moi j'ai pris la croix parce que je sens mieux la croix sur ce genre de jeu.
Et tu as fait des grands gestes.
Il va falloir qu'on parle de ça. Alors moi aussi j'aurais voulu jouer à la croix.
Et moi je joue à la croix et je trouve que c'est intelligent de mettre ce genre d'option voilà qu'on n'a pas toujours sur ce type de jeu parce que la difficulté aussi est impressionnante. Je trouve que c'est un jeu qui est pas facile. Il faut s'y mettre. Enfin il y a certains niveaux qui sont assez tordus. Il y a des moments, des passages qu'on reprend plusieurs fois. C'est un jeu exigeant. On a tellement plein les yeux, plein les oreilles quand on joue qu'on s'accroche quoi. Enfin, je trouve que c'est vraiment un nouveau. Enfin, il y en a quelques-uns maintenant de best-sellers et d'incontournables sur 3DS.
Ça commence à venir là. Oui.
Ça commence à en faire quelques-uns. Et celui-là, pour moi, dans la plateforme, il est incontournable. C'est vraiment un des gros titres.
L'année 2013, l'année 3DS.
Ah oui, je voudrais juste revenir sur la maniabilité. Tu parlais du fait qu'on puisse changer la croix ou le stick. C'est à la base une très très bonne idée. Sauf que quand tu joues au stick, en fait, tu fais saut et avec saut et course avec A et B, donc les boutons de face.
Tu viens avec la croix à l'ancienne, quoi. La croix,
au moment où tu joues avec le stick, tu appuies sur A et B pour sauter et courir normal, et sur les gâchettes pour attraper des objets.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Quand tu passes en croix, ça inverse le layout des boutons et tu ne peux pas jouer avec le layout stick sur la croix et vice-versa. C'est-à-dire que quand tu joues un stick, tu as obligatoirement un autre layout de boutons que quand tu joues la croix. C'est une idiotie absolue.
Je suis sur la croix, croix à l'ancienne tout de suite.
Et moi, je voulais jouer à la croix, sauf que ça changeait le layout auquel j'étais déjà habitué depuis quelques niveaux. Et je trouve ça absolument débile, alors qu'il y avait moyen de juste dire...
Et ça, on
peut pas
configurer, c'est ça ?
Non. C'est,
Il faut faire son choix tout de suite.
Voilà, si tu prends stick, t'as tel type de bouton. Si tu prends croix, t'as tel type de bouton. Mais tu peux pas avoir le layout de bouton du stick avec la croix et vice-versa.
Après, la croix est pas forcément meilleure que le stick. Après, c'est chacun son...
Moi, je voulais jouer à la croix pour le côté un peu old school.
Et moi aussi, au niveau justement précision, parce qu'il y a des passages assez précis. C'est vrai que la croix est assez...
Et je veux juste rebondir sur deux petites choses aussi. Tu parlais du visuel, c'est magnifique, mais il y a un vrai problème de framerate qui tout saute un peu parfois.
Moi j'ai rien vu pour l'instant.
Quand il y a pas mal d'éléments à l'écran, tu sens que ça commence un petit peu à tousser et parfois au point de pouvoir faire rater un saut ou quoi à cause de prise d'input quoi, donc c'est un peu dommage. Et le dernier scandale dans la direction artistique, c'est que King K. Rool n'est plus là. Les Kremlings ne sont plus là, donc qui étaient les méchants de Donkey Kong Country, qui étaient des espèces de crocodiles humanoïdes super cool, vraiment rigolo comme ennemi. Et alors que là, on a des espèces de tam-tam tiki ridicule. Et c'est dommage.
Des roquets,
quoi.
Des choses comme ça.
Ouais. Non, même les tam-tam. Quoi.
Oui, qui sont en flamme parfois.
Ouais, et c'est pas cool, quoi.
Ça sera peut-être dans la prochaine, ça. Il faut que tu accroches-toi. Ils vont revenir peut-être.
Non mais il faut des causes comme ça, il faut des grandes causes.
Bah ouais, toi c'est CinemaWare, moi c'est les Gremlins.
T'en as plusieurs je crois.
J'en ai beaucoup.
Non, toi c'est le Rhythm Game coréen, on va y revenir.
Oh mon dieu.
Mais en attendant, donc Donkey Kong Country Return 3D sur la 3DS.
C'est vachement
très,
bien.
Très très bon portage. Et et en plus... Moi, je sais pas. J'étais très content de faire ça en portable, à pouvoir se balader.
Ça fonctionne bien.
Ça fonctionne très très bien.
La taille des niveaux fait qu'on peut jouer très rapidement sur un niveau. Puis,
Je sais pas si on a parlé finalement du mode facile ou pas, mais
tu l'as évoqué rapidement. Voilà, mais
j'ai mis en normal.
J'ai ajouté un mode facile parce que le jeu est très très dur, mais j'ai quand même essayé du coup le mode facile. Au lieu d'avoir deux points de vie, on en a trois. Il y a des nouveaux objets parce qu'en fait, dans chaque monde, il y a la boutique de Cranky Kong où on peut acheter des objets. Là, il y en a d'autres encore qui facilitent encore plus le jeu qu'on peut acheter.
Le mode 3DS plutôt.
C'est le mode facile.
C'est le nouveau mode en fait.
Et donc il y a déjà ces deux choses là. Et même dans le mode normal maintenant, il était peut-être déjà à l'époque le super guide qui fait que quand tu meurs 8 fois, tu peux avoir l'IA qui termine le niveau, sauf que tu gagnes pas les items quoi.
D'accord.
Et je dois avouer, alors que je me prétends hardcore gamer, que je l'ai utilisé sur un boss ou deux. Tellement. Alors déjà je voulais avancer, mais surtout tellement évidemment ça devient absurde de difficulté. Et c'est génial, faut vraiment s'accrocher quoi.
Mais comme les anciens, ils étaient pas faciles,
clairement.
Ceux de la Super NES. Mais c'est quoi un jeu de ta part
de l'avouer.
C'est l'heure de retrouver Monsieur Fall de l'incontournable site TrickTrack.net. Monsieur Fall et sa chronique jeux de société. Bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine j'ai décidé de vous parler de Love Letter, un jeu signé Senji Kanai, édité en français par Philosophia. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une quinzaine de minutes. Alors mon cher Erwan, nous sommes dans de l'épuration total, peut-être, parce que le jeu nous vient d'Asie. En tout cas, il se compose de 16 cartes et uniquement 16 cartes, rien d'autre. Ces cartes, ce sont des rôles. Il y en a 8. Vous avez le garde, le prêtre, le baron, la servante, le prince, le roi, la comtesse et la princesse. Certaines de ces cartes sont en un seul exemplaire, comme la princesse ou la comtesse ou le roi, et d'autres sont en 2, 3 ou 5 exemplaires, comme le garde, la pierre angulaire du jeu. Ça se joue en manche. Vous avez deux façons de gagner une manche. Soit vous êtes le dernier joueur à table, c'est-à-dire que les autres se sont fait éliminer et vous avez donc remporté la manche. Soit à la fin de la pioche, vous êtes celui qui a la carte de plus forte valeur dans la main, car les cartes ont des valeurs, le garde vaut 1 et la princesse vaut 8. Alors comment on joue ? C'est simple, vous allez le voir. Chaque joueur va avoir une carte en main, face cachée, donc avec un rôle que lui seul connaît. Et à son tour, vous allez piocher une deuxième carte. Donc un joueur a deux cartes. Les autres en ont qu'une seule. L'idée, c'est qu'il va falloir choisir l'une de ces deux cartes quand c'est votre tour, la jouer et en appliquer le rôle. Alors, ces rôles sont divers et variés. Le plus simple, c'est le garde. Quand vous jouez un garde, vous avez le droit d'essayer de deviner la carte que l'un des joueurs a dans sa main. Si vous devinez, il est viré. Si vous ne devinez pas, on passe au joueur suivant. C'est à lui de jouer. Et il pioche donc une carte et il va en abattre une pour en effectuer le rôle. Alors, ça semble simple comme ça, mais il y a des subtilités. Par exemple, si vous avez la princesse en main, qui est très intéressante puisqu'elle vaut 8 et risque de vous faire gagner la manche à la fin de la partie si personne n'a été éliminé, eh bien, cette princesse, vous ne pouvez pas la jouer, car si vous la jouez, vous êtes éliminé immédiatement. Vous voilà donc bien embêté avec cette carte en main, parce que parfois, vous allez vous faire deviner, puisque les gens vont bien voir à votre comportement, que vous avez la princesse en main. Donc, il va falloir jouer de subtilité, d'intelligence pure et de bluff. En tout cas, Love Letter, c'est une pure merveille. Je vous le dis, mon cher Erwan, quand on commence une partie, au début, on fait un peu n'importe quoi, on ne se rend pas bien compte, mais on a très envie d'en faire une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. En fait, on ne s'arrête jamais, surtout que le jeu coûte qu'une dizaine d'euros, 10 euros pour des parties et des parties et des parties. C'est une bombe ludique. Aucune ludothèque ne devrait se passer d'un jeu comme Love Letter. C'est fascinant comme petit jeu. La mécanique est rotulienne. C'est malin, c'est intelligent. C'est une vraie pure merveille ludique, mon cher Erwan. Je ne sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que courez l'acheter, Love Letter, un jeu signé Senji Kanai, édité en français par Philosophia pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une quinzaine de minutes. Et je pense que ça sera plus long puisque vous risquez d'en faire 3 ou 4 ou 5 d'affilée. Tout ça pour 10 euros. Et moi, mon cher Aran, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrap.net et un Love Letter qui a l'air très étonnant. Là,
il est rotulien.
Il est, ouais, mécanique rotulienne. Écoute, ça doit être un truc qui s'articule bien, enfin un truc comme ça. Je ne connaissais pas cette expression. Mais en tout cas, ouais, ça fait envie. C'est 16 cartes et un gameplay qui a l'air assez rigolo. La minute culturelle, sans plus attendre, la minute culturelle de Marmotte 19. Alors, la minute culturelle, nous allons commencer avec une première question. Le 15 juillet 2013.
Il n'y a pas de thème, rien, ok, c'est parti.
Attends. Le 15 juillet 2013, ce sera les 20 ans de l'Amiga CD32, les 30 ans de la Famicom, les 20 ans de la 3DO Interactive Multiplayer ou les 20 ans de la Jaguar.
Sortie française ou américaine, c'est important. On parle de quelle sortie exactement ?
La première sortie, quoi.
Je vais me lancer, Jaguar.
Moi, j'irai Amiga CD32.
Eh bien non, la Jaguar et l'Amiga CD32, tout comme...
Ah non, c'est 94.
Tout comme 94. La 3DO Interactive auront effectivement, sont toutes sorties en 93, hein, donc 93, on auront 20 ans. Mais le 15 juillet 2013, ce sera les 30 ans de la Famicom, qui est donc le thème de cette minute culturelle.
Très bien.
Donc la Famicom. Alors, pour les 10 ans de la Famicom au Japon, Nintendo avait sorti une nouvelle version. Cette version. Alors, vous avez le choix entre 4 propositions. Vous devez trouver la bonne. Soit embarquer un disque système était doté d'une prise RGB. Non. Soit avait dans sa boîte tout un tas de goodies, cartes postales, CD, mini coussins. Soit avait une connectique simplifiée et des manettes débranchables, contrairement à la première version japonaise et comme notre bonne vieille NES européenne. Ou était vendu avec 10 classiques de la Famicom, ces cartouches ornées de jeux.
3.
Moi, je vais suivre Patrick qui a l'air, mais sûr de lui, donc 3, voilà. 3.
Eh bien, oui, il y a bien eu des goodies, une version avec le disque Famicom, la Twin Famicom de Sharp, et des jeux avec de nouvelles illustrations, mais ce n'était pas pour les 10 ans. À l'occasion des 10 ans, Nintendo avait sorti la Famicom AV, abondamment abandonnant ses jolies couleurs blanches et rouges. Elle était désormais grise et moche comme la NES. Elle était accompagnée de 2 manettes détachables, même en bout que celui des manettes NES, aux formes proches de celles de la Super Famicom. Sa connectique ne nécessitait plus de passer par la prise antenne murale, puisque l'image et le son étaient désormais restitué par un câble composite.
Composite, ouais.
Et oui, c'était les 10 ans de la Famicom.
Elle avait un look très particulier hein, dans mon souvenir, cette...
Famicom 10 ans.
New Gen, ouais.
Et oui, oui, oui. Sur les premières générations de Famicom, la manette 2 était différente de la manette 1, car...
Micro.
Elle avait un micro.
Bah oui.
Ah ouais, quand même, vous êtes un peu au taquet.
Et je sais plus dans quel jeu, je crois que c'est Dragon Quest ou Zelda, que quand tu criais dans le micro, le
Zelda,
prix du marchand baissait, non?
Je crois que c'est le deuxième Zelda, ouais, non, ou le premier, peut-être, je sais.
Alors, mais seulement vous êtes censé choisir, alors je donne les choix quand même.
Hein.
La manette 2 était tout simplement numérotée 2, alors que la manette 1 était numérotée 1. Les boutons A et B de la manette 2, alors ça c'est la première. La deuxième proposition, les boutons A et B de la manette 2 étaient carrés, ceux de la manette 1 étaient ronds. Troisième proposition, la manette 2.
Quand même.
Troisième proposition, la manette
2. C'est insultant, Normat.
La manette 2 embarquait un micro, donc avec des commandes pour, avec une commande pour régler la sensibilité.
Oui.
Et quatrième proposition, la manette 2 ne possédait pas de boutons select et start.
Ah, ça aurait pu.
La manette 2, eh bien, oui, mais vous aviez pas tout à fait raison. Vous aviez pas tort.
Ah, parce qu'il fallait qu'on dise qu'il y avait la molette de sensibilité, c'est ça que tu
voulais. Non, la manette 2 était effectivement numérotée 2 et ne possédait pas de boutons select et start. Et surtout disposait d'un micro intégré, donc il y avait trois bonnes réponses sur les quatre. Hein, voilà. Donc
d'accord.
Vous en aviez trouvé une, mais vous l'aviez trouvé avant que je cite, hein, donc vous aviez. Donc en fait, le micro permettait à d'autres, entre autres, d'utiliser sa voix au lieu de la flûte dans Zelda.
Ah voilà. Ouais.
Et oui.
Je sais qu'elle servait à baisser les prix chez un marchand dans un autre jeu. Mais
de chanter sur un jeu de karaoké sur le jeu de complètement barré de Takeshi Kitano. Mmh. Oui, oui, il a son jeu Famicom. Mais le micro n'a jamais été mis à contribution beaucoup plus que ça. Voilà.
Il fallait chanter pendant une heure dans le truc de Kitano. Enfin, c'était un espèce de compilation de mini-jeux complètement débile, le Takeshi's Castle. Et je crois qu'il y avait un truc où il fallait chanter, mais pendant une durée mais horrible, où il fallait crier ou je sais plus quoi pendant plus. Enfin, t'avais une épreuve, fallait attendre 7 heures. Enfin, c'était n'importe quoi.
oui, ça va bien avec le personnage.
Voilà.
Attention, alors là, vous devez les mettre dans l'ordre. Quels sont les trois jeux les plus vendus sur Famicom au Japon? Donc, les trois jeux étaient, alors je vous en cite 4 et vous devez en citer 3 dans l'ordre. Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Dragon Quest 3. Alors?
Super Mario Bros en numéro 1, je pense.
Exact.
Le tout premier.
Bon, celui-là, hein, avec 6,81 millions, rien qu'au Japon, évidemment.
DQ3 en deuxième.
Ouais, moi aussi, j'aurais mis Dragon Quest.
Et après?
Et après, Mario SMB
3.
SMB3. Ouais.
Eh bien, vous avez perdu.
Oh.
Parce que c'est... SMB3 vient juste après avec 3,84 millions devant...
C'est un gros carton, le 3.
Devant Dragon Quest 3, qui en a vendu 3,80. Donc, c'était vraiment...
Mouchoir de poche.
Ouais. Et pour info, Super Mario Bros. 2 ne ferme pas la marche, puisque entre les deux, il y a Dragon Quest 4 qui est devant lui, puis même Super Mario Bros. 2. Et donc là, on a les 5 premiers.
Alors, le Super Mario Bros. 2 japonais, c'est le Lost Level,
le level, c'est tout à fait là.
Hein,
ouais,
c'est
voilà, c'est
dur.
Ça. C'est ouais. Ça. C'est celui
qui était moins. Oui, qui était plus une.
Jusqu'au 30 septembre 2003, il était encore possible de. Et là, 4 propositions. Il était encore possible de faire appel au SAV de Nintendo pour la réparation de sa Famicom et ses accessoires.
Bah oui.
Il était possible de faire graver des jeux Famicom sur disquette pour le disque système. Il était possible de trouver une Famicom neuve chez les revendeurs officiels.
Mais au Japon, alors.
On est en 2003, hein, 30 septembre 2003, oui, oui. Ou de voir sortir des usines de Nintendo des packs Famicom. Le 30 septembre étant la date d'arrêt de la production des Famicom. Laquelle des 4 propositions est vraie? Je vous laisse.
En 2003, alors.
Ouais, 30 septembre.
Je pense que le SAV a couru plus longtemps, à mon avis.
Oula, je ne serais pas avancé jusque-là. Moi, je dirais la 3.
Donc, la Famicom neuve chez les revendeurs officiels. En fait, c'était piège. Les 4 réponses sont exactes. Donc, il y avait encore le SAV. On pouvait faire graver les jeux Famicom. On pouvait trouver une Famicom neuve et voir même des packs Famicom sortis des usines.
On pouvait commander une disquette avec les jeux
dessus.
Énorme.
À titre de comparaison, l'arrêt de la production de la Dreamcast était effectif le 24 janvier 2001.
On n'en sort, sort pas de la Dreamcast, hein, ça revient toujours.
Mais bien sûr.
Ça passe pas.
Alors, sixième question, le Famicom Network System permettait de... 4 propositions, de jouer au Go en ligne,
non.
De jouer à la loterie,
non.
De parier lors des courses de
oui,
chevaux,
oui.
Ou de faire des transactions bancaires et boursières.
Les deux derniers, moi j'aurais dit.
Eh bien, en fait, il fait effectivement, on peut parier sur les courses de chevaux. Il était suffisamment sécurisé pour permettre les transactions financières. Jouer à la loterie n'était pas possible, même si une version prototype a été testée aux USA. Mais le projet ne s'est pas concrétisé. Les mineurs pouvant jouer dans l'anonymat le plus total, un problème légal se posait. Donc, c'était les courses de chevaux. D'accord. Et enfin, septième et dernière question, si je ne m'abuse. Oui, septième et dernière question. Nintendo proposait au début des boutons A et B carrés sur les premières Famicom produites. Nintendo a fini... Ouais. Comme quoi, vous avez rigolé tout à l'heure au niveau des boutons carrés.
Non, c'était le... on a rigolé sur le mélange rond et carré sur une même console. C'était un petit peu disgracieux.
Nintendo donc proposait au début des boutons A et B carrés sur les premières Famicom produits. Nintendo a finalement utilisé des boutons ronds à la place, car, faut pas déconner, des boutons carrés, ça fait mal aux pouces. Première proposition. Non. Deuxième proposition, les boutons carrés avaient des soucis techniques. De nombreux joueurs appelaient le SAV pour cette raison. Troisième, la mode a évolué. Les Japonais se sont tournés vers des objets plus arrondi, Nintendo a fait de même, ou voir le processus de production des boutons ronds est moins coûteux que celui des boutons carrés.
C'est le deuxième, je crois qu'il restait bloqué dans certains cas au fond de la manette.
Exactement,
comme ça.
Bien joué Patrick. Les boutons se coinçaient en fait sous le plastique de la coque. Pour régler le problème, les designers de Nintendo ont utilisé à la place des boutons ronds. Belle performance. Bravo les gars, hein, bravo quand même. Bravo Marmotte 19 pour cette formidable minute culturelle.
De vis, de rebondissements et de coups bas quand même. Hein.
Exactement. Avant de se lancer à corps perdu, je vais retrouver dans DJ Max Technica Tune sur PS Vita et de DJ Max dans son ensemble d'ailleurs. On va écouter ce que donne une chanson est présente dans DJ Max Technica Tune. Menti, c'est actuellement en train de danser dans le studio. Il est monté sur la table. Donc parle-nous.
Je vais juste dire que tu n'as pas choisi le morceau le plus flatteur pour parler.
Ah, moi j'en ai écouté quelques-uns. Moi je trouvais que c'était pas mal.
C'est pas le plus mauvais. Hein. Bon,
alors,
pas le meilleur non plus.
Déjà DJ Max. Donc DJ Max, série de un rhythm game coréen, c'est ça.
Alors DJ Max, série de rhythm game effectivement coréen, produit par une boîte qui s'appelle Pentavision depuis bientôt 10 ans, puisque le premier date de 2004, c'était une version PC. Ça a commencé sur PC, puis très très vite, c'est passé sur PSP en fait, qui a été.
Je pensais aller jusqu'au bout de la chanson, mais je crois qu'on va.
on peut arrêter.
Finalement arrêter.
C'est pas facile pour se concentrer. Donc en gros, la série est très très vite allée sur PSP, qui était donc la plateforme qui a accueilli tous les DJ Max, puisqu'elle en a accueilli 8 jusqu'à aujourd'hui quand même. Alors, on a eu DJ Max Portable en 2006, DJ Max Portable International, Portable 2, Classic Eye, Black Square, Forever aux USA, Hot Tunes, DJ Max 3, enfin, énormément de jeux. Alors, qu'est-ce que c'est tout bêtement? Bah, c'est comme un espèce de DDR, hein, c'est-à-dire qu'on a des boutons qui défilent, on appuie dessus, en rythme, et puis derrière, il y a un clip un peu mignon, et puis il y a de la musique, quoi. Enfin, c'est aussi simple que ça, sauf que c'est extrêmement dur, très précis. Généralement, il y a beaucoup de morceaux, il y a plein de modes différents, enfin, c'est... Chaque DJ Max, généralement, c'est beaucoup de contenu, c'est... t'en as pour ton argent si t'aimes un peu les jeux musicaux, quoi.
C'est du jeu de super player, en grosso modo.
Très vite. Très très vite, ça devient du jeu de super player. Ouais. Avec un système de scoring aussi, parce qu'en gros, quand tu touches bien des notes, tu fais monter une jauge de fever. Quand elle est pleine, tu peux l'activer, et du coup, tu doubles tous tes coups, enfin voilà. C'est du scoring à la DDR, vraiment, DDR et autres...
Dance Revolution, pour ceux qui ne sont pas familiers des Rhythm Games.
Et autres même Guitar Hero, finalement. Oui. Alors, la particularité aussi, c'est que les modes, il n'y a pas vraiment de mode facile, moyen, normal, etc. Ça va être au nombre de boutons.
D'accord.
C'est-à-dire, tu vas commencer avec 3 boutons, c'est-à-dire tu vas jouer avec carré, X rond, puis 5 boutons, puis 8 boutons, donc 6 à gauche, enfin non, 3 à gauche, 3 à droite, et les gâchettes, enfin... Ça va vraiment... c'est complexe, quoi. C'est complexe.
Comment tu as sombré dans ce genre de jeu?
À la base, j'aime déjà beaucoup les jeux.
C'est un choix de vie, quand même. Il y a une décision qui est prise, un plan de carrière. Voilà, c'est pas anodin, quoi.
Non, c'est-à-dire qu'à la base, moi, j'ai un gros, gros fan déjà de Dance Dance Revolution, justement, de Beatmania, de Guitar Hero. Et un jour, j'étais sur un TGS, donc j'ai la chance d'être au Japon, c'était cool. J'avais entendu parler de la licence et je vois dans un magasin là-bas un import coréen. Donc, je vais au Japon pour acheter un jeu import en plus là-bas. que je paye une fortune, mais c'était donc DJ Max Portable 2 où j'avais testé la démo très vite, j'avais été séduit, et là j'ai sombré dans le jeu, mais j'ai mis un nombre d'heures incalculable dedans. Puis ensuite ça a été les, parce que faut pas oublier que la PSP et la PS Vita ne sont pas zonées.
Oui.
Donc c'est très intéressant,
oui,
ça.
Effectivement. Oui,
et du coup un jeu coréen passe tout seul. Et ensuite, ben, ça a été la décadence, ça a été le début de la fin, ça a été
du coup le scénario, tu peux pas en profiter.
De quel quoi, bah, scénario?
C'est en coréen tu... et tout ça. Non.
Ah oui, oui, oh, c'est bon, tu sais. Hein. Non, et en plus, dès DJ Max Portable 2 et peut-être même dès le premier en fait sur PSP, tu as les menus en coréen, japonais ou anglais.
Ah, bon.
Quoi qu'il en soit, ouais. C'est
très jamais
facile.
Arrivé en France. Hein. Enfin, il n'y a jamais eu de.
Il y a une version nord-américaine et au-delà de ça, non, c'est jamais allé plus proche que ça de chez nous. Peut-être que certaines versions PC et ou iOS, Android que j'ai pas encore testé sont dispo en France, mais même ça, j'en suis pas certain.
Et donc arrive ce DJ Max Technica Tune
qui est
sur la
titre exceptionnel.
Technica Tune, ça te fait beaucoup rire.
Sur la PS Vita, mais là grosse révolution, c'est-à-dire que en fait sur ce qui fait la particularité hein, des Rhythm Games, c'est toujours la précision, c'est toujours le rythme, c'est toujours être sur l'instant précis. Et c'est vrai que le système de boutons justement permet de se focaliser et sur l'image, et puis on connaît où sont les boutons, donc là on est concentré
fortiori DJ Max qui quand tu appuies sur une touche, c'est pas genre perfect good machin. C'est max 90 80 70, c'est en pourcentage en fait. C'est très très, il y a une vraie rigueur quoi. Ça rigole pas.
Et là en fait on passe au tactile, donc c'est autre chose.
On passe au tactile puisqu'en fait c'est une simili repompe des épisodes iOS. Et donc sur DJ Max Technica Tune, comme ça on a c'est un petit peu moins confusant. Sur Vita, donc on joue au tactile. Alors au lieu d'avoir justement 3 boutons, ben, c'est tactile devant, puis 5 boutons, c'est tactile devant plus derrière. Et c'est comme ça que tu vas jouer en fait.
Devant donc, plus derrière.
Bah il y a le tactile arrière.
Oui, mais devant en fait tu dois appuyer parce qu'en fait il y a je sais pas comment étaient les précédents, mais en fait t'as une barre verticale qui progresse et t'as des endroits où il faut appuyer.
Les précédents c'était du vertical.
Ouais.
C'est-à-dire que t'avais les boutons qui descendaient comme dans un Guitar Hero. Mmh. Là effectivement tu as deux voies horizontales. Ça passe en haut, puis ça passe de l'autre côté en dessous.
Ouais, voilà.
C'est un peu étrange au début.
En avance, ce qui va arriver.
Exactement. Un petit peu à la Lumines en fait. Ouais. On a une barre
qui montre
le rythme. Ouais. Et le problème, c'est que donc c'est tactile. Donc déjà, pour être un peu précis, effectivement, il vaut mieux que t'aies la PS Vita qui est posée puis tu tapes dessus, hein, ouais. Et non pas avec tes pouces.
Mais quand elle est posée derrière.
Quand elle est posée, tu peux pas jouer derrière. Donc, ben, t'es obligé de la prendre pour jouer un peu de manière intéressante, parce qu'au final, c'est plus intéressant, mine de rien, de jouer aussi avec le tactile arrière, parce que...
Mais le tactile à l'arrière, il est juste rythmique, parce que tu peux pas...
Il est juste rythmique,
oui, voilà.
C'est ça qui est assez cool, c'est-à-dire que, en gros, tu vas devoir taper parfois un rythme sur devant, et derrière, tu auras les contretemps, par exemple. Tu vois, donc, c'est super.
Mon cauchemar.
Ouais, c'est super agréable à jouer quand t'aimes ça, tu vois. Mais le problème, c'est qu'effectivement, à côté des anciens DJ Max PSP qui se jouaient au bouton, là, tu perds toute la précision, tu perds. Enfin, c'est beaucoup moins agréable. Donc, moi, je conseillerais, à la limite, beaucoup de gens maintenant d'avoir une PSP qui traîne. Prenez un vieil épisode,
je vais faire le mec qui s'y connaît en Rhythm Games.
Allez, vas-y.
Sur le côté Rhythm Games tactile, on se rapproche pas ou un peu d'un Elite Beat Agent ou de cette série de jeux sur DS où là il fallait être avec le stylet sur les zones
Elite Beat Agent, c'était beaucoup plus précis.
Ouais.
J'ai l'impression, ouais, parce que bon, c'est un jeu que j'ai adoré moi, enfin les deux Oendan plus Elite Beat Agents, qui était donc une boîte qui s'appelait Innis qui fait ces jeux fantastiques, qui font pas sûrement des meilleurs jeux de la DS. On est moins précis que sur du Oendan ou Elite Beat Agents, c'est vraiment dommage. Et une dernière chose en revanche que je voulais dire, si des gens veulent jouer à DJ Max, c'est la tracklist. Hein. C'est un peu violent, on a entendu un extrait, hein, c'est loin d'être le pire.
Oui, parce que tout à l'heure c'était le plus flatteur, mais en fait c'est loin d'être le pire aussi. Hein,
il est au milieu quoi.
Voilà.
En gros, voilà, se lancer dans DJ Max, c'est abandonner tout sens de l'esthétique pendant quelques moments. C'est
Non, je trouve que il y a des gens, ils ont le droit
qui aiment la coréenne pop.
Voilà, on a le droit d'aimer la K-pop. Enfin,
mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que de la K-pop, il y a de la gabber, il y a l'électro dégueulasse, il y a de la goa, il y a de la trance, il y a des trucs, mais non, c'est un
ça fait tout. Envie, hein, tu le vends bien.
Mais tu sais quoi, mais non, mais le pire, envie. C'est que je joue à ce jeu.
Ah non, on a compris.
Et je me dis, chouette, je vais prendre ce morceau. Et le morceau, il est dégueulasse, tu vois. Mais c'est pas grave parce que, en fait, l'intelligence des anciens DJ Max, c'est un peu moins de celui-ci, c'est les patterns, en fait.
T'as un drôle de rapport avec ce jeu, je trouve.
Mais oui, oui,
pas la musique.
Ah, mais c'est. Il a tout ce qu'il y a de plus honteux, mais c'est un excellent jeu musical en fait. Et surtout, c'est, on en a pas parlé, mais les patterns, c'est-à-dire la manière dont sont arrangées les touches sur lesquelles tu vas devoir appuyer, sont jouissives et ça fonctionne super bien. Et t'as l'impression de jouer les instruments vraiment. Le morceau en plein milieu va te passer. D'abord, il va te faire jouer la batterie, puis après d'accord, il va te mettre sur le solo de guitare, puis ensuite machin. Tu vas vraiment jouer plus ou moins tous les instruments et c'est super agréable.
Il y a de l'apprentissage aussi. Enfin, finalement, il faut connaître un morceau par cœur pour s'en sortir.
Comme tous les jeux musicaux à terme, si tu veux faire un score expert, machin, parfait, oui, évidemment. Maintenant, juste pour t'amuser, déjà, c'est super cool. Je conseille, je crois que toujours sur PSP, la démo du 2 est dispo. Je crois. Alors, c'est plutôt jeune, hein, c'est des vieux souvenirs. Mais si vous avez moyen de tester en tout cas le jeu sur PSP avec les boutons, et je le conseillerais pas tout de suite sur Vita, allez-y. Et sinon sur Vita, très très vite, c'est plus coréen mais c'est japonais, il y a un jeu qui s'appelle Project Diva 2, qui est pas mal en jeu musicaux, enfin en jeu musical sur PS Vita, pour le coup qui se joue avec les boutons. Mais j'attends d'y jouer encore un petit peu plus avant vraiment de le conseiller.
C'est à télécharger ou pas?
Ou en import. Bah ouais, mais comme
il faut aller au Japon pour l'acheter en import coréen.
Non, alors bon, on a la chance, pas loin d'ailleurs de Libération, d'avoir des boutiques qui vendent des jeux import.
Pour ceux qui habitent à Paris.
Voilà, mais sinon on peut les commander, même ça coûte un peu cher forcément. Ouais. En revanche, on peut pas les télécharger puisque c'est pas les mêmes stores.
Ah.
Tu peux pas les choper sur le store européen, tout ça. Donc non, c'est ça va être importation obligatoire et généralement ça coûte un petit bras. Donc je déconseillerais pour l'instant l'épisode Vita, mais en conseillant chaudement, très très chaudement les épisodes PSP.
Bon, en tout cas, si vous avez l'occasion de voir notre ami Pippo Montis jouer à un Rhythm Games, c'est toujours un moment un peu spécial, hein, parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir les mêmes doigts. J'ai pas l'impression d'être équipé pareil, quoi. Il y a un truc visuel, rythmique.
Écoutez, il y a des gens qui savent jouer au FPS. Moi, je suis appuyé sur des boutons en rythme. Hein, écoute, voilà.
un attroupement de gens autour de lui.
Trop fort.
Comme dans les salles d'arcade.
Et ben voilà, donc DJ Max Technicatune, qui n'est pas tout récent, hein, mais bon, en même temps, c'est...
2012.
Voilà, 2012, fin 2012 en version export. Voilà, c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo. Le mois qui arrive promet d'être bien rempli. Hein. On a du Remember Me, on a un E3 qui s'annonce un petit peu mouvementé pour le coup. On a Last of Us, évidemment, et puis voilà. Ce sera déjà pas mal. Et puis, on va finir hein, avec la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Pippo ? Non, on va commencer par Patrick. Ah, parce que je sens que notre ami Pippo est un peu largué.
Alors, oui, si, ces dernières semaines au hasard, mais je regarde des fois mes DVD, puis ça, je reprends au hasard. Et paf. Et en fait, j'ai vu deux films avec Michel Serrault ces derniers temps qui m'ont bien plu. Hein, donc, j'ai revu Docteur Petiot. Un film de 89 assez bien foutu donc qui retrace l'itinéraire de ce médecin tueur en série, un film qui lorgne un peu vers l'expressionnisme allemand, enfin c'est bien foutu et il est ressorti il y a pas très longtemps en vidéo, il était un peu introuvable. Et j'ai revu aussi Garde à vue avec Serrault et Ventura, donc un film de Claude Miller qui est juste mythique, qui date un petit peu, c'est un film de 81 mais qui n'a rien perdu de son intensité, enfin je trouve que ce film c'est un tour de force, Garde à vue, avec un Serrault qui, en fait, c'est un huis clos, ça se passe pendant une nuit. Serrault qui est arrêté et donc placé à garde à vue pour qui est suspecté d'avoir tué une fillette, deux même. Et voilà, tout le film tient sur la tension entre Ventura et Serrault, donc un vrai duel entre les deux acteurs. Et c'est un film qui coupe le souffle littéralement, un vrai tour de force.
Donc tu as regardé les deux films non comiques de Michel Serrault en fait.
Ils sont pas, non, c'est vrai qu'il est pas très comique dedans, mais en tout cas, voilà, deux films que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est vrai que c'est un acteur aussi, Serrault.
Allez, tu as retrouvé tes esprits, Pierre.
J'ai trouvé quelque chose. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté en boucle, et c'est pas une blague en plus, vraiment en boucle, le dernier single de Boards of Canada, qui est un groupe que j'adore, qui est, je vais dire peu connu, mais j'en sais pas grand chose en fait. C'est ce qu'on appelle de l'IDM, donc Intelligent Dance Music, parce que dans les années 90, il y avait la dance music et il fallait dire que nous on faisait la même chose mais en intelligent. Alors qu'aujourd'hui, on appelle ça de l'électro chill en gros. Et c'est un groupe extraordinaire, les Boards of Canada. Hein. Ça fait 15 ans qu'ils font le même album, mais comme cet album il est fantastique, ben je prends un plaisir fou à l'écouter à chaque fois. Et donc là, ils préparent Tomorrow's Harvest, qui sort dans quelques semaines. Et le premier single est tombé, qui s'appelle Reach for the Dead, qu'on peut écouter sur SoundCloud, YouTube, ce que vous voulez. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est des nappes, hein. C'est assez basique, hein. C'est des nappes et de la batterie, mais c'est juste que c'est très très bien fait. C'est très beau, ça fonctionne. Il y a un mec qui a fait une version de 10 minutes qu'il a mis sur SoundCloud, que donc j'ai écouté en boucle une nuit où je bossais, et voilà, c'est merveilleux. Donc je vous conseille à tous d'écouter Boards of Canada. Fantastique.
Et bien moi, après le dernier Silence on joue, en fait, j'ai eu envie. Il y avait eu des grandes envolées de Patrick.
Oh là là, attention.
Et puis bon, voilà.
Faut pas trop m'écouter, Erwan, hein, tu sais.
Mais non, mais j'ai revu Vertigo, d'une part. Tu dis ce mot Vertigo, et puis tout de suite, il y a une réaction du côté de Patrick.
Pardon, j'essaie toujours de contrôler. Mais
donc, que j'avais déjà vu, et je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu. C'était un oubli malheureux dans la filmographie d'Hitchcock, et je l'ai vu finalement aussi, La Corde, Rope de Hitchcock. Donc ce film incroyable, ouais, en plan séquence, en faux plan séquence, hein, les bobines duraient 10 minutes à l'époque. Donc en fait, il y a plein de raccords, il y a plein de petites tricheries qui sont très visuelles en plus, c'est assez marrant. Et l'histoire est incroyable, ouais, avec un James Stewart un tout petit peu vieillissant qui
faussement vieilli, je crois. Le film est un peu plus ancien que Vertigo, il y a quelques années.
Ah oui, d'accord. J'avais pas fait le. Je pensais qu'il. Ah oui,
il joue. Voilà, il joue toujours grandiose. Ouais, de toute façon,
toujours grandiose. Et franchement, voilà, La Corde, c'est pas tout récent. Tu vois, je fais mon Patrick. Là, je parle.
Tu es sur le bon. Non mais La Corde, c'est fantastique.
Ouais. D'accord. Mais de toute façon, je suis parti. J'en ai quelques autres en stock à regarder. Donc
tu nous tiens au courant.
Peut-être pas toutes les semaines. Peut-être pas toutes les semaines.
Mais tu vois, ça y est, il a la réponse facile maintenant chaque semaine à la question rituelle. Quoi, alors que nous à chaque fois on doit galérer, tu vois, c'est dégueulasse.
Bah, enfin, des fois j'ai quand vous jouez pas, je joue quand même, hein.
Oui, à Persona 4.
Ouais, tu sais, c'était
il en 89 est sorti, heures. Quand même,
non, il n'a pas encore fini.
Non, je suis au 5 janvier ou au 13 janvier, je crois.
Tu revois des films quand même, t'as commencé à passer à autre chose quand même.
Ouais. Enfin, j'aime bien,
pas trop quand même.
Non, pas trop.
Il a redécouvert une vie culturelle.
Bon, bah, c'est fini pour cette semaine à la technique, comme d'habitude. C'était Louise Molière, et nous, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.